Caribbean.
Le magazine qui explore,
qui voyage, qui découvre.
Je suis avec Benjamin Bernard, bonjour.
Bonjour.
Tu fais partie de l'association Maison du Libre et tu es aussi le créateur de l'Open Pass View, c'est pour ça qu'on a rendez-vous aujourd'hui. Et tu vas me faire une petite présentation des locaux que vous venez d'avoir, 214 rue Jean Jaurès.
Voilà, c'est ça, le 214. Donc on va faire une visite assez rapide. Donc d'abord, la Maison du Libre en soi, c'est une association qui a pour but de promouvoir le libre sous toutes ses formes. Ça va donc des logiciels libres que beaucoup de gens connaissent, Firefox, des choses comme ça, mais ça passe aussi par du matériel de conception libre. Mais... Donc, c'est-à-dire typiquement le laboratoire de fabrication numérique qu'on a ici, qui permet de concevoir des pièces dont les plans sont ouverts.
Quand tu parles de libre, tu ne parles pas de gratuité, il faut faire la différence.
Voilà, c'est ça. Le libre, ce n'est pas forcément quelque chose de gratuit. Le libre, c'est quand les plans sont ouverts, la recette de cuisine est disponible. Mais si on prend l'exemple des machines qui sont ici, il y a un coût bien évidemment pour usiner les pièces. De la même manière que sur du logiciel libre, il y a des coûts de maintenance.
Voilà, si vous avez un logiciel libre, c'est-à-dire que vous avez accès au code qui a permis de le créer,
voilà,
mais ce n'est pas forcément que c'est gratuit. Vous pouvez avoir accès à ce code, voilà.
Voilà, vous avez la recette de cuisine, après, c'est vrai que ce n'est pas forcément gratuit de faire le gâteau.
Voilà. Bon, pour les auditeurs, voilà, c'était bien de faire la différence.
Donc ici, on a un espace de travail partagé sur lequel on a le vendredi soir et le jeudi soir des ateliers. Le vendredi soir, c'est des ateliers du coup plus orientés logiciels. Comment gérer, par exemple, créer son site web, gérer son serveur pour son site web. Le jeudi, ça va plutôt être du bricolage, donc on est plutôt sur les aspects fabrication numérique. Pour ces aspects de fabrication numérique, on a l'avantage d'avoir un laboratoire de fabrication numérique, le DFAB, comme je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on est équipé. On a notamment une découpeuse laser, une fraiseuse numérique. Alors toutes les machines ne sont pas encore installées vu qu'on est en cours d'aménagement. Et on a également un espace un peu plus conséquent.
Il faut être dans l'association du libre, de Maison du Libre, ou il faut ou
ça, si on les est... adhérents en fait ont accès à l'ensemble des ressources de l'association. C'est-à-dire que le jeudi soir c'est ouvert. Si vous avez une pièce à usiner, vous pouvez venir. Si vous êtes adhérent de Maison du Libre.
D'accord.
Et même si vous n'êtes pas adhérent, vous pouvez toujours venir voir, découvrir les machines, venir poser des questions ou autres aux adhérents. Donc c'est quelque chose de vraiment très ouvert. On forme du coup les adhérents à l'utilisation de l'ensemble des machines. Donc, c'est-à-dire que c'est vraiment dans la philosophie du partage, la philosophie du libre. C'est-à-dire qu'on va, si vous avez une pièce à usiner, on va vous montrer comment l'usiner, mais on va pas le faire à votre place. C'est aussi ce qu'on appelle l'esprit maker. Et donc là, on est dans un autre espace machine qu'on est en train d'aménager, dans lequel on a aujourd'hui un tour, un métaux qui tourne. Différentes scies, des choses comme ça, et du consommable après qui est stocké un peu plus à l'arrière.
Qu'est-ce que tu appelles du consommable ?
Le consommable, ça va être des planches de contreplaqué, du plastique, des choses comme ça, du plexiglas, voilà, un peu de tout. Donc voilà, on n'est pas que sur du logiciel. Alors, on peut passer ici. Dans la pièce qui est ici, on est sur des machines un peu plus petites, c'est-à-dire qu'on est sur des... Ici, on est par exemple une découpeuse vinyle. C'est une machine qui découpe des stickers.
D'accord.
Des stickers de couleur ou autre. Si vous voulez décorer je sais pas, l'arrière de votre PC ou coller des stickers, faire des stickers personnalisés, ça se fait sur ce type de machine-là. On a également en cours de montage ici une imprimante 3D géante, c'est-à-dire que c'est une imprimante qui pourra imprimer des pièces d'un diamètre d'un mètre et jusqu'à un peu plus d'un mètre de hauteur. Donc c'est un modèle rare qui a été conçu en fait par un des adhérents de l'association et dont il y a une réplique exacte qui est en train d'être fabriquée aussi à Rennes.
Faire un cylindre d'un mètre, enfin d'un mètre sur un mètre, admettons.
Ouais, c'est ça.
Combien de temps ça mettrait? Parce que déjà, on connaît le temps pour les petites pièces sur
Alors,
les petites...
Ce serait très long. Là, on parlerait plutôt de, je pense, de 2 à 3 jours, quelque chose comme ça, pour l'impression. Mais ça reste faisable. Ce qui est intéressant, c'est de voir que là, y a rien qui est impossible. Là, c'est vraiment un défi que s'était fixé un des adhérents. Et aujourd'hui, on a réussi déjà à imprimer, par exemple, cette fusée. Sur une imprimante 3D classique, au niveau de la hauteur, ne passerait pas du tout. Donc là, on est sur une fusée qui fait dans les 60 cm de haut, quelque chose comme ça.
Et combien de temps, du coup ?
Cette fusée-là, c'était, je crois qu'on était sur 5 à 7 heures d'impression. Après, on peut définir la densité de la pièce, c'est-à-dire combien de plastique on met à l'intérieur de la pièce, et qui va du coup, plus la pièce est dense, plus ça va être long à imprimer. Ouais. Mais elle sera plus solide aussi après, plus résistante. Donc on a vu le laboratoire de fabrication numérique. Donc à partir d'ici, on a un ensemble de bureaux qui sont en fait mis à disposition à des entrepreneurs, des indépendants ou autres, même des universitaires. On a par exemple ici le centre François Viette de l'UBO qui fait tout ce qui est recherche autour de comment appliquer des nouvelles méthodes scientifiques sur des recherches historiques, des survols par drone ou autres de sites historiques, des choses comme ça. Tonnerre de presse, une attachée de presse indépendante. Cléone et Petika Création, artistes, illustratrices, travaillent notamment avec les écoles. P3LK, c'est une société qui travaille autour de la cartographie, mais cartographie numérique, donc on pense les cartes OpenStreetMap, des choses comme ça. Amstragraph, qui est autour de tout ce qui est stratégie. Orientée autour du numérique, des choses comme ça. On a un bureau qui reste encore à disposition.
Admettons qu'on voudrait venir au 214 rue Jean Jaurès, comment on fait pour vous contacter?
Alors pour nous contacter, il suffit d'envoyer un mail à bureau@mdl29.net.
MDL pour Maison du Libre.
Voilà, pour Maison du Libre 29.net. Donc bureau@mdl29.net, ou de passer nous voir tout simplement ici, parce que le local est ouvert presque tous les jours. Et donc les bureaux sont à un tarif de, on a 15€ le mètre carré, et ça inclut les charges. C'est-à-dire que Maison du Libre ne fait aucun bénéfice sur la mise à disposition en fait de ces bureaux. On le fait tout simplement pour pouvoir payer nous le loyer derrière, qui est assez conséquent pour ce bâtiment-là.
Belle initiative déjà.
Canet est une société qui est autour de la fibre optique pour les casinos et de la téléphonie sur IP, donc c'est-à-dire téléphone via Internet. Et enfin, le dernier bureau, Cyril Clémenceau, qui lui est développeur web et mobile, sous licence libre. Donc c'est un adhérent de l'association qu'on connaissait déjà depuis un moment, et qui est un développeur comme ça indépendant. Donc c'est intéressant de voir qu'il y a des gens qui partagent la même philosophie que l'association qui rejoignent le local. On a au premier étage... La Maison du Libre, on l'a vu, c'est du logiciel, aussi du matériel, donc on essaie de couvrir toutes les facettes. Et on accueille aussi des jeunes le samedi, 40 jeunes qui sont accueillis cette année tous les samedis par une dizaine de bénévoles. Et donc ces jeunes-là, c'est les petits hackers. Et l'idée des petits hackers, c'est de ne pas être consommateur du matériel ou du logiciel, mais vraiment de créer, d'apprendre comment ça marche derrière, comment tourne son PC, des choses comme ça. Et donc les petits hackers, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils arrivent en début d'année et on leur demande de proposer des sujets, des choses qu'ils ont envie de fabriquer, des besoins, des choses qui les dérangent dans la vie de tous les jours ou autre, comment ils veulent essayer de les régler. Et donc nous, après, on les forme à l'informatique et l'électronique, mais vraiment pour arriver au projet. C'est-à-dire qu'il y en a un qui veut faire un robot, on va pas faire de cours théoriques avant, on va directement commencer à prendre les pièces, monter le robot et après essayer de comprendre comment on le fait avancer, comment on le fait reculer, des choses comme ça.
Du coup, vous travaillez beaucoup avec de l'Arduino, je suppose, avec ce genre de choses?
C'est ça, on travaille avec donc du coup des cartes Arduino, c'est quelque chose de très simple pour commencer. Également des cartes Raspberry Pi pour des projets un petit peu plus gros. On a par exemple le projet Panobus, où c'est un panneau qui est affiché dans le hall d'un lycée ou d'un collège et qui retrace tous les arrêts de bus qui sont autour du lycée avec le temps d'attente à l'arrêt si on part. Si on part au moment où on est devant le panneau. C'est-à-dire que ça prend en compte le temps de marche jusqu'à l'arrêt et ça nous dit combien de temps on va attendre, si on va réussir à avoir le prochain bus ou pas. Et ça, ils l'ont fait parce qu'ils voulaient pas attendre à l'arrêt de bus, mais qu'ils voulaient rester discuter entre eux le soir après les cours. Et donc ça, ce panneau-là, il aligne un peu toutes les compétences qu'on retrouve dans le lieu. Il y a à la fois le panneau en lui-même qui est en bois et qui a été découpé sur la fraiseuse numérique à partir d'un plan OpenStreetMap, donc des cartes libres. Ensuite, on a la partie logicielle derrière qui va récupérer les informations des positions des bus en temps réel, c'est-à-dire que le panneau est vraiment relié au réseau Bibus. Donc, quand on. C'est pas une estimation du temps d'attente, c'est vraiment le temps d'attente réel.
Du coup, c'est Bibus qui vous met à disposition des informations, des traceurs.
Bibus a ouvert ces données, tous les bus sont équipés en fait de GPS. et qui retransmettent régulièrement leur position. Et donc à partir de ça, on arrive à savoir combien de temps on va attendre à l'arrêt de bus. Il y a aussi de l'électronique derrière, parce que c'est un ensemble de LED après qui affiche différentes couleurs en fonction du temps d'attente. Donc là, c'est le type de projet qu'ils peuvent monter et qu'ils ont monté en l'espace de 6 mois, en étant là tous les samedis. Donc c'est des petits projets comme ça intéressants. Ça peut être des petits robots qui se déplacent, qui détectent les obstacles. Voilà. C'est vraiment, on ne sait pas ce qu'on va faire l'année prochaine, c'est vraiment les jeunes qui arrivent avec leur projet. On a enfin une dernière façade du 214, qui est ce qu'on appelle nous un Fab Lab textile. C'est POC La Girafe, c'est une association qui met à disposition des machines, couture ou autres, à disposition des artisans ou aussi des particuliers qui n'auraient pas forcément les machines chez eux ou qui ont envie d'échanger autour de leur pratique. Et donc POC est ouvert régulièrement dans la semaine pour les gens qui ont comme ça envie d'utiliser les machines. Donc là on est plus sur un aspect textile, et ce qui est intéressant c'est qu'il y a des liens qui se créent entre le textile et l'électronique. Comment est-ce qu'on va pouvoir coudre des LED ou des choses comme ça sur des vêtements. Donc voilà, il y a une synergie qui commence à se créer. Voilà, on a fait le tour du 214. La maison du libre aussi au passage.
Je suis avec Benjamin Bernard, bonjour.
Bonjour.
Tu es le créateur et l'inventeur de l'Open Pass View. Alors pour ceux qui ne savent pas, l'Open Pass View c'est un peu le Google Street, mais là, justement votre devise c'est là où Google Street n'ira pas.
Voilà.
Alors est-ce que tu peux nous expliquer un peu ?
L'idée du projet c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de lieux qui ne sont pas couverts par Google Street View, et c'est souvent des lieux qui ont beaucoup d'intérêt, des sentiers qui sont accessibles uniquement à pied ou autre, et les équipes de Google n'ont pas la possibilité de le faire. Ils ont le matériel pour le faire, mais ils vont pas revenir spécialement à Brest pour le faire, par exemple. Donc on a décidé d'aller cibler ces lieux-là qui sont intéressants, des lieux de patrimoine, des lieux de randonnée ou autres, et donc du coup d'aller là où Google ne va pas. Mais ça peut être aussi très bien des lieux complètement insolites. On a par exemple été sur le toit du monument américain au cours d'Ajo, avec une vue assez exceptionnelle. Donc c'est des, voilà, c'est les lieux où Google n'ira pas. C'est très bien que Google ne parlera pas de temps à aller à cet endroit-là.
Voilà, donc c'est aussi des photos à 360 degrés, c'est ça ?
C'est ça.
Comment ça marche la technologie derrière ça ?
Donc c'est ce qu'on appelle des photosphères, c'est-à-dire que c'est une photo qui prend en compte tout l'environnement autour du sac à dos, vu que c'est un sac à dos qu'on utilise pour prendre les photos. Et donc c'est des photos qu'on peut rappeler immersives, dans le sens où on va pouvoir regarder à gauche, à droite, se balader dans l'image, regarder le ciel, regarder le sol. Donc voilà, c'est des photos immersives. Donc c'est des photos d'une résolution de 40 mégapixels, ce qui est relativement élevé. C'est légèrement en dessous de ce que met à disposition Street View aujourd'hui sur son site web, mais on est au-dessus de ce que Street View faisait aussi au début. Donc voilà. Donc c'est l'image que vous voyez en ligne, elle fait 40 mégapixels. Et elle est chargée après de la même manière qu'une carte quand on zoome dans la carte. Quand on va zoomer dans l'image ou quand on va bouger dans l'image, on va charger progressivement l'image. C'est-à-dire qu'elle n'est pas chargée d'un coup.
Mais pour faire une photo normale, tu as un seul objectif, un seul capteur. Comment ça marche pour faire une photo à 360 degrés, justement ? Comment on réintègre les plusieurs images ? Je ne sais pas combien il y en a. Comment on fait pour réintégrer toutes ces images en un seul fichier, justement?
Alors, dans le sac à dos qu'on a là, devant, il y a une tête photo. Et sur cette tête photo, on a 6 appareils. 5 disposés sur le tour, en périphérie de l'appareil, et un qui pointe vers le ciel. C'est-à-dire que ces 6 appareils-là sont synchronisés entre eux. C'est-à-dire que c'est des GoPro. On a conçu, nous, derrière, un circuit imprimé sur lequel est branché les 6 caméras et qui synchronisent la prise de vue. C'est-à-dire qu'elles font leurs photos exactement au même instant. Donc on fait donc de la photo en mouvement sans avoir une photo qui est décalée par rapport aux autres ou une photo qui serait un peu plus floue que les autres. Non, on est vraiment sur des photos qui sont prises exactement au même instant. Donc 6 photos prises en même temps pour constituer un panorama. Du coup, ce qu'on fait nous, c'est qu'on assemble toutes ces images-là entre elles. Pour les assembler, il faut savoir comment on les recolle, les images. On ne fait pas ça au hasard. Donc ces images-là, en fait, elles sont recollées par ce qu'on appelle des points qui sont en commun entre deux appareils, c'est-à-dire que les images se recouvrent légèrement entre elles. Les appareils sont des appareils grand-angle. Et donc avec ce recouvrement qu'on a entre deux images, on arrive à trouver des points de jonction et donc assembler les 6 images en une seule et même image.
Donc du coup, il y a une tête intelligente à l'intérieur de ton boîtier ?
Alors cet assemblage, il n'est pas fait par l'équipement, il est fait sur ordinateur ou sur serveur après. Parce que ça demande de traiter beaucoup de données. Ce qu'on est sur, en général, sur des campagnes de prise de vue, on va avoir plusieurs gigas de photos qui sont effectuées, parce qu'on fait des photos automatiquement avec le sac à dos en marchant tous les 15 à 20 mètres. Donc du coup, ça génère beaucoup d'images très rapidement.
Du coup, l'actives, t'as un bouton on/off.
Alors on met le sac sur le dos, ouais. On le branche en bas, il y a une Raspberry Pi qui contrôle le sac à dos. Et une fois qu'elle est alimentée, le sac, on peut le contrôler à partir de son téléphone. Donc on sort son téléphone, sur le téléphone on va avoir la carte qui a été chargée sur le sac à dos qui permet de voir où on est, si le GPS fonctionne bien ou si la boussole aussi qui connaît l'orientation du sac fonctionne bien.
Du coup tu récupères aussi les données GPS à chaque photo?
C'est ça, et donc avec ces données GPS on sait donc où a été prise la photo, quand elle a été prise et on sait aussi également comment elle est orientée, même si là-dessus on est encore en train d'améliorer le boîtier parce qu'on a certains capteurs qui ne sont pas suffisamment bien fixés, ce qui fait que quand on marche avec on n'a pas forcément toujours une très bonne précision. Et donc avec toutes ces données-là, on a donc des photos sphériques qui sont géolocalisées. Une fois qu'elles sont assemblées, ça donne une image qui est un peu, qui ressemble beaucoup à un planisphère. C'est-à-dire que ça reste un fichier JPEG, mais qui contient les 6 images. Et donc du coup, l'image, elle est forcément déformée. On a la bande de pixels qui est en haut, qui ne représente en fait qu'un seul point, de la même manière qu'un planisphère si on décollait en fait... Ce qui est mis dessus. Donc nous, après, pour que cette image-là elle soit rendue immersive, pour qu'on puisse se balader dans l'image, on l'insère dans une visionneuse web qu'on a développée en fait avec un étudiant qui est basé aux États-Unis. Donc c'est un projet en fait que lui avait lancé avant OpenPassView et sur lequel on s'est greffé et on a apporté des améliorations sur ce projet-là. Parce que le projet est sous licence libre, ce qui fait qu'on peut l'améliorer. On a pu nous l'adapter à nos besoins et lui renvoyer les modifications qu'il a aussi intégrées après, par la suite, dans son projet.
Justement, tu parles d'amélioration. Quand est-ce qu'il est né, ce projet OpenPassView ?
Alors, le projet est né en 2013. Début 2013, l'idée a émergé et le premier prototype, le premier sac à dos, a été réalisé en juillet-août 2013.
Voilà, donc 6 mois de développement.
C'est à peu près ça, sachant que le premier prototype n'avait pas du tout cette allure-là. C'est-à-dire qu'on prenait les photos à l'aide d'un bouton qui était en bas du sac à dos, les appareils n'étaient pas suffisamment bien synchronisés, on devait s'arrêter pour prendre la photo. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ont été améliorées ensuite. Mais l'idée, c'était d'aller très vite pour pouvoir faire des photos très rapidement pendant l'été et pouvoir montrer que c'était faisable déjà. Parce qu'il y a beaucoup de gens au début qui pensaient que le projet n'était pas réalisable.
Bah justement, qu'est-ce qui a évolué sur le boîtier depuis le début ? Est-ce que tu as changé les GoPro par exemple ?
Alors les GoPro pour l'instant sont restés les mêmes, mais la géométrie du boîtier en elle-même a évolué. On a eu des boîtiers plus grands, des boîtiers plus petits, des boîtiers qui avaient des faces légèrement inclinées, des choses comme ça. Donc on a testé plein de géométries différentes. On est resté finalement sur quelque chose d'assez simple. Mais ce qui a aussi beaucoup évolué après, c'est tout l'aspect électronique, la carte de synchronisation qui a été refaite, améliorée, le code qui est embarqué sur le sac à dos aussi, le logiciel qui fait tourner le sac à dos, qui lui a été largement amélioré pour ajouter une application smartphone qui le contrôle. Également, on a aussi possibilité de le contrôler avec une montre connectée. qu'on peut mettre au poignet. Bon, le seul souci, c'est que l'autonomie de la montre, pour l'instant, est inférieure à celle du sac à dos, donc bon, c'est pas forcément le meilleur moyen de le piloter. On peut aussi se connecter avec son ordinateur directement dessus pour le contrôler, donc voilà. On a rajouté comme ça beaucoup de choses au fur et à mesure. Et aussi du retour d'information des caméras, pour savoir si la photo a réellement été prise ou pas. Que si on fait une marche de 2 à 3 heures et qu'on se rend compte qu'il y a une caméra qui en fait était défaillante, vaut mieux le savoir tout de suite. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a rajouté et qu'on a mis en place.
Est-ce que tu as une anecdote un peu sympa à propos de ton sac, un lieu où on t'a refusé ou les gens qui viennent toujours te demander mais qu'est-ce que vous faites?
Ce qui arrive souvent, voire même presque tout le temps, de moins en moins maintenant sur Brest, vu que le projet commence un petit peu à être connu, c'est que on nous demande si on travaille pour Google. Ça, c'est quelque chose qui arrive tout le temps. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rajouté sur la tête du sac à dos le nom du projet avec l'adresse pour les gens qui veulent avoir plus de renseignements. Et donc, du coup, ça, on a toujours quand même la question qui revient. Mais au moins, on peut leur répondre, regardez, c'est écrit en haut. Parce que la première fois qu'on est sorti avec l'équipement, c'était sur la pointe Saint-Mathieu. On a fait les premiers essais et les premières campagnes de prise de vue. Et ce qui s'est passé, c'est que sur 2 heures qu'on a passé là-bas, on a passé à peu près 1h30 à expliquer ce qu'on faisait et 1 demi-heure à réellement prendre des photos.
Est-ce que vous avez des demandes de monuments particuliers? Est-ce que des monuments vous contactent pour venir faire des photos chez eux?
On a eu quelques prises de contact, mais finalement sur l'ensemble ça reste assez rare parce que ce qui se passe assez souvent, c'est que nous on a une idée d'un lieu qu'on a envie de prendre en photo et on va contacter après les gens qui gèrent ce lieu-là pour voir avec eux si c'est possible ou non.
Et est-ce que tu sais si vous êtes les seuls à le faire sur le territoire?
Des projets similaires ou proches. Au niveau de l'équipement, il y a beaucoup de choses qui existent. Il y a de plus en plus de caméras photosphériques ou vidéos qui permettent de faire des vidéos sphériques qui sortent sur le marché, souvent pour du grand public avec des qualités qui sont pas du tout les mêmes que cet équipement-là. Donc du coup, au niveau de l'équipement, il y a beaucoup de choses qui existent. Il y a des choses très proches de cet équipement-là. Il y a notamment quelqu'un en Allemagne qui avait une société qui vendait en fait des outils qui étaient presque identiques aux nôtres. C'était vraiment très proche. Donc il y a des choses qui existent. Après, des initiatives sous licence libre, il y en a moins. Il y en a quand même. Il y a notamment Eiffel aux États-Unis qui est une entreprise qui développe des caméras sous licence libre en open hardware. Et donc Eiffel documente l'ensemble de ces caméras. Sauf que eux, ce sont plus des chercheurs en fait qui sont derrière cette entreprise, et donc ils sont sur des équipements qui atteignent des prix qui sont exorbitants. On est sur dans les 85 000 dollars le sac à dos, avec des qualités d'image qui sont pas du tout les mêmes, c'est sûr, mais c'est vrai qu'on n'a pas besoin de ça pour faire de la visite virtuelle.
Mais du coup, tu me disais aussi les caméras à 360 degrés commencent à apparaître, des résolutions sont pas très bonne.
Pour l'instant, sur les caméras grand public, si on prend la Giroptique par exemple, qui est développée par une société française, on est sur des photos qui sont faites par la caméra sur une résolution de 8 mégapixels, alors que nous on est à 40 mégapixels. Donc pour de la vidéo, c'est quelque chose qui reste acceptable parce que les images défilent, on va pas forcément chercher à avoir une très bonne résolution. Tandis que sur de la photo, si on est sur une visite virtuelle, on est vraiment sur l'idée de mettre en valeur le lieu qui a été photographié. Et si on peut pas, ne serait-ce que zoomer très légèrement dans les images ou autre, ça peut être quelque chose qui est un peu rebutant après.
Mais est-ce que ton boîtier, à l'heure actuelle, il peut faire des vidéos?
Dans l'absolu, il pourrait en faire. Nous, on n'en a pas fait, parce qu'on sait que ça nécessite des puissances de calcul après qu'on n'a pas forcément nous derrière. Et qu'on va aussi baisser en résolution, c'est-à-dire que pour balayer suffisamment vite le capteur, on va avoir des images d'une résolution moindre que ce qu'on a aujourd'hui. Et on a fait le choix de la photo depuis le début, et on y tient énormément, parce que sur la photo, on estime que la personne qui visite le lieu, elle est acteur de sa visite, alors que si c'est une vidéo, elle va être guidée, elle va être spectateur vraiment de la vidéo, et elle va pas forcément aller chercher les recoins, choisir des trajets différents, des choses comme ça. Alors que là, sur la photo, comme sur Google Street View, c'est vraiment quelque chose où on est acteur de sa visite.
La liberté jusqu'au bout de l'idée, quoi.
C'est ça.
Justement, c'est quoi vos projets cet été? Je sais que vous avez Brest, c'est ça?
Alors, on va essayer de faire des photos sur les fêtes nautiques. La difficulté n'est pas forcément d'avoir les accréditations presse pour les faire, ça en général on arrive à les obtenir. C'est plus la difficulté de voir comment nous on va valoriser le contenu. Ce qu'il faut savoir, que comme on le disait tout à l'heure, libre ne veut pas forcément dire gratuit. C'est-à-dire que nous, cet équipement-là, il coûte un peu plus de 3 500 € le sac à dos, le prototype qu'on a là devant. Donc il faut qu'on arrive à financer ne serait-ce que la maintenance, racheter des batteries, des choses comme ça. Et donc, on ne fait jamais de photos gratuitement. C'est-à-dire que sur quasiment l'ensemble des campagnes photos qu'on a effectuées, c'est des campagnes photos qui étaient financées derrière ou il y avait une contrepartie derrière ces campagnes de prise de vue. Voilà, donc là, sur les fêtes nautiques, nous, on est à la recherche d'un partenaire média, presse, qui puisse rediffuser éventuellement les images. Parce que ce qu'on s'est rendu compte aussi, c'est que on aura beau communiquer, nous, sur Internet, à part bon, certaines images, comme sur le monument américain ou autre, ça a été repris après par des médias, donc du coup, ça s'est diffusé assez largement. Si on ne s'associe pas forcément à un média pour publier les photos et les diffuser très largement, c'est dommage de faire des photos et de les garder un peu pour soi. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment de on va essayer de s'associer à un partenaire média, donc on n'a pas encore vu exactement qui ça allait être. On en discutait avec le Télégramme, Ouest France, France Bleu, des choses comme ça. Ça va se décider probablement dans les semaines à venir. Et donc l'idée, c'est vraiment de s'associer avec quelqu'un pour diffuser ces images-là avec une plateforme qui serait assez conséquente. Un peu comme on l'a fait sur les Vieilles Charrues, où on avait des points photos pris un peu partout sur le site des Vieilles Charrues et qui étaient donc du coup visualisables en ligne dans les 24 heures après la prise de vue.
Du coup, ça va se refaire avec les Vieilles Charrues cette année ?
Du coup, on priorise plus les Brest 2016 parce qu'on est brestois tout simplement et qu'on a envie aussi de changer un petit peu et qu'on n'a qu'un sac à dos. Donc on est un petit peu limité.
Si on a envie de vous contacter pour un événement, par où est-ce qu'on passe ?
Pour nous contacter, donc sur le site, en cherchant Open Pass View sur Internet, vous tomberez sur le site de la Maison du Libre qui porte le projet. Et donc vous avez toutes les coordonnées après sur le site de Maison du Libre.
Le magazine qui explore,
qui voyage, qui découvre.